Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie et de la finance. On a eu pas mal de tensions cette semaine entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ont renforcé les sanctions économiques à l'encontre de Pékin en ciblant des entreprises et aussi des individus qui sont accusés de soutenir la Russie dans son effort de guerre. La reprise économique dans la zone euro, somme toute assez modérée, la Banque Centrale Européenne a publié ses prévisions économiques pour 2024. Alors, elle les publie régulièrement, c'est souvent réactualisé. Et là, on est sur une légère croissance qui pourrait persister en zone euro. Mais prudence tout de même, parce que ce sont des évaluations qui sont appelées à être révisées. En tout cas, on a toujours une volatilité assez persistante sur les marchés financiers européens et mondiaux, ce qui témoigne d'un manque de clarté de la part des investisseurs dans un contexte qui est, somme toute, assez tumultueux, avec de la guerre, aussi toujours des tensions sur les phénomènes migratoires. D'ailleurs, à ce sujet, soulignons que l'OCDE, l'Organisation de coopération de développement économique, a publié un rapport tout à fait important qui explique ô combien le phénomène migratoire, au sens large du terme, quand celui-ci est légal, dans quelle mesure celui-ci est de nature à contribuer à l'enrichissement de certaines zones économiques, comme par exemple l'Union européenne. Et juste d'un mot pour finir avec la France, petit tour d'horizon bien sûr, la France a annoncé le lancement de nouveaux projets d'éoliennes offshore, l'objectif étant d'aider la France à multiplier ses sources d'énergie dans un contexte que l'on sait extrêmement difficile, surtout depuis la guerre en Ukraine. L'Europe, ça a été aussi cette semaine l'actualité avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qu'on disait partant, qui finalement a fait son retour aux affaires courantes. On se souvient que l'Espagne a été tenue en haleine pendant au moins 5 jours. On parlait d'une démission suite à l'ouverture d'une enquête judiciaire contre son épouse. Bon, finalement, ça n'a pas eu lieu. Et c'est intéressant, à l'occasion de ce soubresaut politique, de s'intéresser à la situation économique espagnole, faire le point et voir dans quelle mesure la situation politique impacte-t-elle ou pas le tissu économique espagnol. Pour cela, nous allons nous tourner vers notre invité cette semaine, c'est Benoît Pellistrandi, universitaire, économiste, qui connaît parfaitement bien l'Espagne et l'économie espagnole. Mais on va quand même commencer, pour se faire une sorte de petite piqûre de rappel, dirons-nous, peut-être nous rappeler en quelques mots les éléments de contexte politique, puis après on se tournera tout de suite vers les éléments économiques. Mais juste pour qu'on se situe bien ces dossiers-là, aujourd'hui, la fameuse affaire Sanchez, qui s'est donc clôturée cette semaine, qu'est-ce qu'il faut en penser, qu'est-ce qu'il faut retenir ?
Mais ce à quoi on assiste maintenant depuis plusieurs années, c'est à une dégradation spectaculaire de la vie politique. Alors, c'est assez difficile de dater le début de cette dégradation, mais je pense qu'on peut quand même la faire remonter à plus d'un quart de siècle, quand, dans l'opposition, José María Aznar, alors leader du Parti populaire, essayer de discréditer Felipe González, qui avait déjà à son actif 3 victoires électorales. Et on a eu à ce moment-là, du côté de José María Aznar, le choix d'une radicalisation de la vie politique, et qui a porté les fruits, puisqu'effectivement il y a eu une usure du pouvoir pour la gauche, et donc une montée de la droite. Ensuite, cette manière de faire a porté préjudice au Parti populaire, et on a eu aussi une crispation à gauche très nette. Et je dirais, la deuxième étape de cette dégradation de la vie politique, ça a été la crise des deux grands partis de gouvernement, du Parti populaire et du Parti socialiste, l'un en 2011, l'autre en 2015, et l'apparition d'alternatives avec l'extrême gauche, Podemos, ou avec une option que l'on présentait comme centriste, Ciudadanos, et qui, dans les deux cas, exprimé de façon assez nette de la part des Espagnols, un rejet de la manière de faire de ce qui avait été jusque-là les deux grands partis de gouvernement.
Alors, justement sur ce point, est-ce qu'il serait impossible, sur la base de ce jeu politique tel que vous nous le présentez, Benoît Pellistrandi, quels ont été les impacts économiques et sociaux des événements que vous venez à l'instant de nous décrire ?
Alors, ce que l'on sait, effectivement, sur le plan économique, c'est que Felipe González est tombé, je dirais, sur une mauvaise gestion de la crise dans les années 93-96, qui était à la fois la conséquences de la réunification allemande et des grands mouvements qui étaient en train de s'opérer en Europe, et la mise en place de la monnaie unique. Et c'est donc José María Aznar qui, lui, a réussi, par une politique de libéralisation et de privatisation tout à fait considérable, c'est sous José María Aznar que l'énorme secteur public hérité en grande partie du franquisme a été privatisé et que les entreprises espagnoles se sont complètement transformées et sont parties à la conquête du monde. On peut prendre un exemple, c'est celui de la compagnie Telefonica qui était un monopole d'État et qui est devenue une des grandes entreprises de communication à l'échelle mondiale. Et puis, cette libéralisation, cette frénésie qui a donné à l'Espagne des années de croissance économique au début du XXIe siècle, c'est très mal fini avec les conséquences de la crise américaine des subprimes et qui est devenue aussi la crise européenne de l'immobilier. Et en Espagne, ça a été particulièrement violent. Et ce sont les années de la Grande Dépression entre 2008 et 2013. Et il est évident que les conséquences économiques et sociales de cette grande dépression, alors je rappelle un chiffre, le PIB a reculé de l'ordre de 10%
ce qui est énorme.
Entre 2008 et 2013, ce qui est absolument considérable, et on est passé de 2 millions de chômeurs à 5 millions de chômeurs, et on estime qu'il y avait en 2013 au moins 1 million de foyers espagnols dans lesquels aucun des adultes ne travaillait, soit l'homme, soit la femme. Donc, il y a vraiment eu un phénomène d'appauvrissement considérable d'une société qui avait cru que les arbres montaient jusqu'au ciel. Et ça, ça a été un choc psychologique et social majeur qui explique aussi l'apparition d'une extrême gauche anticapitaliste beaucoup plus radicale et qu'on constate que finalement le consensus sur lequel la démocratie espagnole s'était construit dans les années 1980-2000 s'est effondré à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, si on met tout ça un peu en perspective de long terme, on comprend mieux que ce qui se passe en Espagne aujourd'hui est la conséquence de tous ces traumatismes. De la même façon, et ça il ne faut pas l'oublier, que la crise catalane s'est greffée sur le contexte économique et social. C'est parce qu'il y avait la crise que les Catalans ont dit « nous devons sortir de cette situation ».
Mais quand on fait la synthèse entre cette séquence Pedro Sanchez sur laquelle la presse internationale et espagnole est beaucoup revenue, quand on inclut donc les éléments politiques que vous avez présentés au départ, les éléments économiques aujourd'hui, est-ce que ce type de séquence politique, ça surfe sur l'économie espagnole sans impact, ou est-ce que finalement on peut se dire que de tels soubresauts sont de nature à apporter des perturbations dans cette économie espagnole que vous venez de nous décrire?
Alors on a une situation très singulière parce que le redressement économique espagnol s'est opéré. Le gouvernement de Mariano Rajoy a été un gouvernement d'assainissement financier avec un coût social tout à fait considérable, mais qui a sorti l'Espagne de l'ornière de la Grande Dépression. Et puis l'arrivée de Pedro Sanchez et d'un programme de gouvernement beaucoup plus social a permis de corriger les effets de l'austérité et incontestablement a eu un effet extrêmement positif sur le fonctionnement de l'économie. En dépit même de la crise du Covid, que finalement l'Espagne a plutôt s'en est plutôt bien remise. Alors ce qui se passe en réalité aujourd'hui en Espagne, c'est qu'on a un contraste entre une économie qui fonctionne bien et qui sans doute d'ailleurs explique la raison pour laquelle le Parti Socialiste résiste. Les élections de juillet 2023 ont montré que le Parti Socialiste a réussi à mobiliser son électorat. Grâce notamment par exemple à la hausse du salaire minimum, sous Pedro Sanchez, le salaire minimum a augmenté de 40%. Donc c'est vraiment un effet de rattrapage qui est tout à fait appréciable. Et on constate que la consommation des ménages a tenu en dépit de l'inflation, que le chômage baisse, et surtout, je dirais, la grande réussite du gouvernement, mais qui est dans la suite des acquis du gouvernement précédent aussi, c'est le fait que la population active, et donc le nombre de cotisants à la sécurité sociale, a considérablement augmenté. Quand José María Aznar est arrivé au pouvoir, si on met un tout petit peu d'histoire longue, il y avait à peu près 13 millions de cotisants à la Sécurité sociale. On est monté à 17 millions.
Oui, ce qui est énorme.
Même 18 millions au mieux. C'est redescendu à cause de la crise. Mmh. Et là, aujourd'hui, on est au-delà des 20 millions. Mmh. Donc, c'est vraiment de ce côté-là ce qui, actuellement, est le moteur de la croissance espagnole. Alors, bien entendu, la politique de Pedro Sanchez est une politique à gauche et qui a augmenté les impôts, notamment pour les revenus les plus favorisés ou pour les entreprises qui font des bénéfices considérables, notamment les entreprises énergétiques ou les grandes banques. Or, comme ces entreprises ont aussi des relais médiatiques très puissants, elles ont présenté le gouvernement Sanchez comme étant un gouvernement quasiment communisant.
Oui, ce qui est un peu caricatural quand même.
Complètement caricatural, caricatural. Et donc, il y a un impôt qui pèse sur les bénéfices exceptionnels des banques. Alors, pour donner un exemple, le BBVA, qui est la deuxième banque espagnole, s'est acquitté l'an dernier de 400 millions d'euros d'impôts supplémentaires sur un bénéfice de l'ordre de 8 milliards.
Wow.
Bon, on peut pas dire que la ponction soit vraiment de nature soviétique.
Oui,
bon,
bien sûr, bien sûr.
Mais tout ça provoque naturellement un débat qui, en réalité, n'est pas posé en termes théoriques, mais qui devient véritablement une sorte de débat de posture entre ceux qui accusent les socialistes de ruiner l'Espagne, ceux qui accusent au contraire les socialistes de ne pas être suffisamment à gauche. Donc on est, je dirais, dans le jeu traditionnel de la vie politique, mais avec beaucoup de caricatures. Et ce qui en réalité me frappe beaucoup quand on regarde l'Espagne d'aujourd'hui, c'est que le pays fonctionne socialement, fonctionne économiquement, et que la société espagnole est une société plutôt équilibrée et apaisée.
Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui de vraies visions du futur, de l'équilibre difficile et complexe entre le social, l'économique et le politique? Est-ce qu'il y a des projets qui sont identifiables facilement et qui sont, on va dire, présentés, proposés aux électeurs espagnols? Ou est-ce que, finalement, on se rend compte que droite-gauche, bah, tout cela est un peu diffus, tout cela et les éléments qui sont proposés à l'électorat sont moins clairs, sont moins nets? Parce que, à la limite, au moins un programme communiste entre... Oui, enfin, même on peut dire là, pour le coup, c'est très caricatural ce que je dis. Au moins, ça a le mérite d'être très clair. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, on a une clarté au niveau des programmes socio-économiques espagnols ou est-ce qu'on est quelque peu dans le flou?
Alors, il y a une clarté. Il y a une clarté parce que le Parti populaire, lui, défend un programme libéral de baisse d'impôts. Alors, il est présent comme la baisse d'impôts pour les classes moyennes, mais elle concerne en réalité les classes moyennes plutôt supérieures. Et que le Parti populaire reste aussi sur son logiciel de privatisation d'un certain nombre de services publics. On le voit dans les communautés autonomes qui sont gérées par le Parti populaire. Alors, non d'ailleurs, sans certains succès, mais aussi avec un certain nombre d'échecs, notamment en ce qui concerne la santé, où il y a parfois des listes d'attente qui sont très longues pour arriver à des opérations. Cela dit, dans les communautés qui étaient gérées par le Parti socialiste, ce n'était pas beaucoup mieux. Donc, il y a quand même un programme économique de droite et un programme économique de gauche qui n'est pas le même. Mais en réalité, ce qui paralyse actuellement la réflexion politique espagnole, c'est l'absence de projet national. C'est-à-dire que le Parti populaire ne sait pas exactement quelle réponse apporter à la crise catalane, et le Parti socialiste non plus n'a pas de solution. La seule solution qu'il a trouvée, c'est une alliance de nature parlementaire, mais il n'y a pas de vision à long terme, et les objectifs poursuivis par les indépendantistes catalans et par le gouvernement de Pedro Sanchez ne sont absolument pas les mêmes. Or, ensuite, on a toujours, à cause de cette question indépendantiste, une question majeure qui est posée aux Espagnols, c'est à savoir quel projet commun ont-ils encore. Alors, avec deux questions techniques que je soulève, c'est que le gouvernement de Pedro Sanchez vient de concéder au gouvernement basque la possibilité de casser la caisse unique de sécurité sociale, puisque c'est, je dirais, la sécurité sociale est la seule institution nationale et elle est gérée au niveau national. Mais là, ils ont commencé à prévoir les mécanismes par lesquels il pourrait y avoir une caisse autonome de sécurité sociale basque. Et les Catalans, je dirais, vont se mettre dans l'élan posé par les Basques. Et là, si on commence à démanteler la sécurité sociale, eh bien, il est évident qu'on démantèle la dernière grande institution qui assure une cohésion. Et on le fait de la façon, je dirais, la plus opaque possible, parce que personne n'a conscience des enjeux que ça
engendre pour l'Espagne.
Mais
comment se fait-il qu'un projet... Effectivement, c'est vrai que c'est intéressant que vous évoquiez ce point-là, parce qu'on en a somme toute assez peu parlé. Enfin, c'est vrai que la sécurité sociale, ça touche aux fondamentaux, à l'âme d'une nation. Ce sera assez incroyable. Est-ce qu'on a un agenda? On sait quand est-ce que tout cela pourrait voir le jour pour reprendre le mot d'ailleurs que vous aviez utilisé, vous avez dit ça casse la sécurité sociale espagnole. On sait quand est-ce que ça va commencer?
Eh bien, pour le Pays Basque, un certain nombre de transferts sont en train d'être faits. Pour la Catalogne, c'est pas du tout à l'ordre du jour.
D'accord.
Mais dès lors que c'est fait pour les Basques, pour la Catalogne va le demander. Alors, il se trouve que les Basques ont une situation fiscale et très originale, puisqu'ils sont liés à l'Espagne par un concert économique, c'est-à-dire que les impôts sont prélevés au Pays Basque par les administrations basques, et c'est ensuite le gouvernement basque qui apporte sa contribution au budget espagnol. On est vraiment dans une logique d'ancien régime,
hein,
où on négocie. Les Catalans voulaient ce système-là, mais là encore, ça remonte à l'ancien régime. Ils ne l'ont pas, on est dans un système beaucoup plus, j'allais dire, centralisé, même s'ils conservent 50% de l'impôt sur le revenu qu'ils peuvent, du coup, affecter à leur choix régionaux. Mmh. Et on est en réalité dans une immense incertitude et avec une énorme contradiction pour le Parti Socialiste qui a été soulevé, y compris par un certain nombre de socialistes, je pense au président de la région Castille-La Manche,
oui,
qui dit en réalité, en cédant aux nationalistes catalans, nous cassons la solidarité nationale. Mmh. Et si nous cassons la solidarité nationale, nous ne sommes plus socialistes, puisque les régions pauvres vont devoir gérer leur pauvreté et les régions riches vont garder leur richesse.
D'accord.
Comment un gouvernement socialiste peut-il assumer cette position?
Mais c'est une chose que je comprends pas, c'est-à-dire que la question de la gestion de la sécurité sociale, du déficit de la sécurité sociale, parce que je ne sais pas, à moins que nos amis espagnols aient découvert la baguette magique qui permet d'avoir un régime de la sécurité sociale qui soit stabilisé et qui n'ait pas de déficit, mais est-ce que le fait que ce système national espagnol soit démantelé à la faveur de pulsions indépendantistes ici et là, comment ces provinces, comment ces régions vont-elles faire pour gérer l'équilibre extraordinairement difficile des comptes de la sécurité dans telle ou telle province? Enfin, on se dit que c'est quand même... c'est bien envoyé des... Enfin, c'est bien. Ce sont des signes d'indépendantisme qui sont envoyés, ça c'est une chose, j'ai pas dit que c'était bien, d'ailleurs je retire ce mot, mais comment ils vont faire pour s'y atteler en étant efficaces et sans couler le système de la sécurité sociale, parce que c'est quand même pas facile à gérer.
Mais non, c'est pas facile à gérer. Alors, il se trouve que la sécurité sociale espagnole a quand même été mieux gérée que d'autres sécurités sociales.
Ah, française, vous voulez
dire. Au moment de la croissance économique, il y a eu des réserves qui ont été faites, notamment pour payer les retraites. Alors, ça a été très utile parce que pendant la Grande Dépression, eh bien, en fait, ce sont les réserves qui avaient été accumulées qui ont permis de payer ces retraites. Alors, effectivement, le fonds aujourd'hui est à sec. Mais globalement, il n'y a pas du tout la même dette de sécurité sociale que celle qu'on a par exemple en France. Donc la situation est meilleure. Mais comme vous le dites, la question est posée. Et là où, je dirais, le débat devient d'une technicité terrible, c'est qu'on peut très bien imaginer par exemple que quelqu'un ait sa vie professionnelle en Catalogne et puis revienne en Andalousie prendre sa retraite.
Ah bah oui,
ça a été souvent le cas. Alors, à ce moment-là, qui va payer? Est-ce que c'est la caisse de sécurité sociale catalane parce qu'il a cotisé en Catalogne mais qu'il prend sa retraite en Andalousie? Ou est-ce que c'est le contraire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend sa retraite, ce sont les Espagnols qui payent. Et de ce côté-là, en réalité, je veux dire, personne n'ose soulever la question parce que il n'y a pas de solution à ce casse-tête. Et on voit bien à partir de ce moment-là qu'il n'y aura plus de mobilité possible. Alors, c'est déjà ce qui est arrivé, par exemple, dans le corps enseignant. La régionalisation du corps enseignant fait que désormais, les enseignants sont bloqués dans une communauté autonome. Et tout ça a des effets à long terme. Or, si la main-d'œuvre, j'allais dire privée, ne peut plus circuler librement en Espagne, l'Espagne va perdre de la compétitivité et perdre du dynamisme. Donc, il y a là des enjeux de très long terme qui sont complètement occultées parce que le débat public ne s'intéresse pas à ces vraies questions et préfère être dans l'écume passionnelle et l'émotion mobilisatrice autour de thèmes liés à l'indépendance.
L'écume passionnelle, je trouve que c'est une très très jolie expression. Mais c'est, cela dit, Benoît Pellistrandi, c'est assez effrayant ce que vous nous décrivez, parce que si demain, parce que c'est un grand pays l'Espagne, si demain la notion de mobilité interrégionale ou intra-régionale est remise en cause par les décisions qui sont prises aujourd'hui, ça interroge énormément sur, ne serait-ce sur la perception que l'Espagne, que l'Union européenne peut avoir de l'Espagne. Enfin, je veux dire, c'est quand même ça deviendrait un cas très 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 singulier.
Ah, ça deviendrait un cas très singulier. C'est pour ça que cette question de l'unité de l'Espagne, je ne parle pas ensuite de l'équilibre des
pouvoirs. Oui, bien sûr, on comprend.
Mais l'unité est une vraie question et qui est une question absolument colossale. Or, en plus, justement, il y a une contradiction entre la construction européenne et la cession de souveraineté à un ensemble plus vaste pour plus de solidarité à l'échelle européenne et le processus inverse intérieure de la communauté espagnole qui consiste justement à recréer des identités et des réalités locales. Donc l'Espagne elle est prise entre deux mouvements qui sont complètement contradictoires. Et pourtant l'Espagne est pro-européenne. Alors on l'a vu au moment de la crise catalane, les Catalans ont dit mais nous resterons en Europe, et l'Europe leur a dit non, ça sera un tout petit peu plus compliqué.
Oui. Bon.
Ce que disent aussi tous les experts en termes économiques, c'est que la région qui fait sécession est celle qui, à long terme, sur le plan économique, celle qui a le plus de préjudice. Alors, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'au moment où les Catalans ont proclamé de manière un peu fictive leur indépendance, il y a 5000 entreprises qui ont retiré leurs sièges sociaux de la Catalogne. Et il n'y en a que 2000 qui sont revenus. Et depuis, on constate que les entreprises essayent de ne pas mettre leur siège social en Catalogne. Et quand on regarde ensuite la trajectoire de la croissance entre la Catalogne et la région de Madrid, on voit bien que la région de Madrid a un dynamisme économique très supérieur depuis 8 ans maintenant. Donc, toutes ces questions-là ont des effets à long terme. Mais justement, ce qui est très frappant, c'est que l'opinion publique, elle ne regarde pas assez.
Oui, c'est ça qui est très étrange.
Parce qu'elles sont assez techniques, après tout. Et ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est à la fois de bien vivre leur vie. On lit pas beaucoup les journaux. Hein. Les Espagnols n'ont jamais beaucoup lu les journaux. Et aujourd'hui, qu'il y a une crise de la lecture, encore moins. Que les informations audiovisuelles sont vraiment, à ras des pâquerettes quand ils sont pas au niveau de l'égout.
Ouais.
Donc, il n'y a aucune pédagogie, aucune éducation. Et ces enjeux, en fait, un certain nombre d'experts et même de politiques sont parfaitement conscients de l'importance de ces enjeux, mais ils ne sont pas entrés dans l'arène démocratique. Et c'est ça qui est vraiment très dommage.
Et comment, juste ce sera là ma dernière question, l'Espagne est une puissance internationale, alors avec les relations économiques que l'on sait avec l'Amérique latine, pour des raisons donc historiques, également avec le Maghreb. Dans quelle mesure ces événements que vous nous avez longuement décrits, Benoît Pellistrandi, est-ce que ça peut impacter est-ce que ça peut ne pas impacter? Quel est votre ressenti? Quels sont les éléments que vous pourriez partager avec nous sur ce point des conséquences internationales pour l'Espagne?
Au niveau européen, on voit bien que l'Espagne compte beaucoup moins. On l'a vu notamment avec la question palestinienne qui a fait un flop.
Et juste d'un mot pour terminer, Benoît Pellistrandi, quels sont les quelques grands chantiers sociaux et économiques du futur que vous pourriez nous présenter en quelques points pour savoir ce à quoi sera ou est déjà confrontée l'Espagne en termes, encore une fois, économiques?
Une des questions qui demeurent, j'évoquais tout à l'heure, par l'augmentation très nette de la population active espagnole, et c'est assez important, mais il faut encore donner de la qualité à ces emplois. Beaucoup d'emplois restent extrêmement précaires, on le voit notamment à cause du poids du tourisme dans le produit intérieur brut espagnol, donc ce sont des emplois saisonniers. Il faut qu'il y ait vraiment une montée en gamme. Alors on commence à l'observer dans l'industrie, dans la recherche, mais ce n'est pas encore suffisant. L'Espagne ne peut pas se contenter d'être un pays où la main-d'œuvre est moins chère. Il faut aussi qu'elle soit un pays où la main-d'œuvre est mieux qualifiée. Et c'est aussi, je dirais, le deuxième grand enjeu pour augmenter la productivité du travail en Espagne. Il va falloir s'attaquer à la formation, c'est-à-dire réformer l'éducation espagnole. Et nous retombons sur, à nouveau, cette question de la fragmentation, puisque les politiques éducatives sont quasiment pour moitié de compétences nationales et de compétences régionales. Donc on a un vrai problème, d'articulation, non pas d'un marché national, mais d'une capacité d'offre nationale.
Merci beaucoup Benoît Pellistrandi, merci d'avoir été avec nous cette semaine dans Economia. On revient au Maroc avec le Conseil de gouvernement qui a validé cette semaine un projet de loi sur la réforme des commissions régionales d'investissement. C'est tout à fait important, une décision dans le cadre de la mise en place de directives royales qui avait été exprimée dans le discours du roi. C'était le 29 juillet 2018 avec à la clé la création de commissions régionales unifiées d'investissement. Zacharia Firano est économiste. Il nous rappelle l'importance de ces CRI pour permettre au Maroc de réaliser ses objectifs d'attractivité économique.
Aujourd'hui, la vision de l'État marocain est de parvenir à un investissement privé qui représente les deux tiers du total d'investissement au Maroc. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers une structure de gouvernance capable de mener à bien cette politique d'État en matière de démocratisation des investissements régionaux. Les centres régionaux d'investissement constituent le facteur clé de succès sur lequel mise l'État marocain pour pouvoir développer, promouvoir et rendre attractif le territoire régional marocain en faveur des investissements, que ce soit les investissements nationaux ou également les investissements internationaux.
Merci Zacharia Firano qui était au micro de Pierre Boudias. Voilà, sur ces mots s'achève cette nouvelle édition d'Economia. On aura le plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.